L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcapitalisme. Aujourd'hui, autour du transféminisme matérialiste, donc une approche féministe matérialiste de la transitude. Et pour en parler, nous sommes avec Sophia, la co-animatrice habituelle de Sortir du patriarcapitalisme, Pauline Clochec, militante féministe, et Constance Lefebvre, militante féministe et militante trans. Donc bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Alors allons directement dans le vif du sujet en définissant peut-être le terme qui aura sonné le plus étrangement aux auditeurs, aux auditrices. Qu'est-ce que c'est que la transitude, pourquoi parler de transitude plutôt que de transidentité
Je pense que on peut définir assez simplement la transitude en reprenant une catégorie qui est en fait assez bien connue de la plupart des gens qui ont entendu parler de ça, mais qui est peut-être mal comprise, qui est tout simplement celle de changement de sexe. La transitude, c'est changer de sexe ou désirer changer de sexe, et pas forcément être dans des conditions sociales, familiales, qui le permettent. Mais j'ai dit, ça c'est une représentation commune, en un sens elle est juste, en un sens elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste si on dirait changer de sexe au sens où souvent la médecine et la psychiatrie l'entend, où il y aurait une pathologie, une souffrance qui s'agirait de soulager par un certain nombre de procédés médicaux obligatoires. Changement de sexe, je l'entends plutôt au sens où il s'agit de passer ou d'essayer de passer d'une catégorie sociale à une autre. C'est-à-dire que dans la plupart des sociétés contemporaines, les sociétés occidentales, mais qui ont malheureusement imposé leur système de système patriarcal et leur système de sexe à la plupart des sociétés de la planète, on a une organisation sociale en deux groupes de sexe, hommes et femmes, et qui correspondent en réalité moins à une vérité biologique qu'à une organisation, une hiérarchisation de la société entre des dominants qui sont les hommes et des dominés qui sont les femmes. Eh bien, la transitude, c'est d'abord une situation, à savoir une situation de non-correspondance entre le sexe qui est assigné à la naissance à un individu et son sexe vécu. Que ce sexe vécu soit celui dans lequel il ou elle ou elle vit socialement ou celui dans lequel il ou elle ou elle désirerait vivre. Donc c'est une situation. Et c'est une situation, mais c'est aussi un processus, un certain nombre de procédés qui permettent de réaliser ce désir, qui permettent de réaliser ce passage d'un sexe à l'autre ou d'un sexe à une forme de plus ou moins non stéréotypée de sexuation. Alors ces procédés, ils sont divers et variés. Il y a des procédés sociaux, s'habiller différemment, avoir d'autres codes genrés, d'autres codes de comportement, une manière différente de parler. Donc il y a un aspect social, il y a un procédé juridique, changer ses papiers d'identité, Et il y a des procédés physiques, un certain nombre de procédés physiques de type traitement hormonal, de type chirurgie, qu'on peut aussi suivre pour gagner un corps biologique du sexe dans lequel on n'est pas né. Hein, parce que les personnes trans, si elles suivent un processus physique, ce ne sont pas des personnes qui seraient, par exemple, une femme trans, ce n'est pas une personne qui serait corporellement un homme et à l'intérieur de sa tête une femme. Non, non, c'est quelqu'un qui devient réellement, socialement et physiquement aussi, biologiquement, une femme. Donc tout ça, tous ces procédés sociaux, juridiques et physiques ou médicaux, c'est ce qu'on appelle la transition. Et tout ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que vous avez des personnes trans qui vont changer des aspects sociaux, mais qui se foutent de changer des aspects physiques. Et puis même dans les aspects sociaux, il y a des aspects physiques. Il y a des aspects physiques comme l'habillement, c'est comme la voix. C'est social, mais c'est aussi des aspects physiques. D'autres qui se foutent de leur papier d'identité parce que c'est pas important pour eux, etc. D'autres pour qui c'est très important. Donc c'est un ensemble de dimensions, mais il ne faut pas cocher forcément toutes ces cases-là pour transitionner. Or, ce qui est important, c'est que quand on a dit ça, on se rend compte que être trans, cette situation d'être trans, de non-correspondance entre le sexe d'assignation et la naissance, et le sexe vécu, eh bien, ce n'est pas une condition permanente de la personne. Ce n'est pas quelque chose qui resterait attaché à elle à vie. Parce qu'il y a la transition, justement. Il y a la transition qui fait que, quand on s'engage dans un processus de transition, on quitte sa classe de sexe, son groupe de sexe d'assignation. Pendant quelque temps, qui peut être plus ou moins long, on sera un peu entre les deux, perçu bizarrement par les gens vont hésiter. Vous arrivez dans un endroit, les gens ne savent pas si ils doivent vous dire bonjour ou madame, ce qui arrive aussi beaucoup à des cis d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, on sort de ça. On sort de ça et les gens se posent même plus la question. Ils vous perçoivent selon votre sexe d'arrivée. Même s'il y a certaines personnes, et c'est leur droit, c'est légitime, qui préfèrent rester dans un entre-deux, qui préfèrent créer le trouble chez les gens pour déstabiliser les catégories sexuelles binaires. Or, le problème social que rencontre ce changement de sexe, c'est que il y a tout un ensemble de comportements, il y a tout un ensemble d'institutions qui vont essayer de ramener les gens ou de garder les gens dans leur sexe d'arrivée. Considérer que le sexe de départ, excusez-moi. Considérer que le sexe de départ, c'est ça la vérité profonde sur les gens. C'est ça le cissexisme fondamentalement. C'est considérer que le sexe d'assignation à la naissance, ce serait une vérité biologique indépassable et qu'on ne peut pas changer. Et que si quelqu'un s'en extrait par la transition, tout ça c'est de l'apparence, c'est de l'illusion, c'est du déguisement. Et que par conséquent, il faut renvoyer les gens à leur sexe de départ, si besoin est, par la violence, par les agressions. Mais ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'imaginaire collectif. On n'a qu'à songer à beaucoup de films sur la transitude qui existe, où les personnes trans sont représentées comme des personnes qui, en fait, sont toujours visibles en tant que trans par la société. Pensez, par exemple, à Laurence Anyways, où la première scène, c'est la scène d'ouverture. Bah, Laurence Anyways, Laurence, elle marche dans les rues, et tout le monde la regarde d'un air un peu horrifié, d'un air un peu effrayé. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ce freak? Non, en fait, en réalité... Oui, peut-être pendant les premiers mois, les premières années de transition, oui, on a ce regard-là, mais pas après, en fait, ou pas toujours après, pas forcément.
Pas tout le monde.
Pas tout le monde. Mais donc, on a une culture cissexiste, une société cissexiste, qui considère que les trans, être trans, c'est pas juste un procédé, un processus transitoire, mais c'est une forme de tare, de défauts profonds qui resteraient attachés à la personne à vie.
Je vais peut-être me permettre d'essayer de reformuler un petit peu avec mes mots, enfin la façon dont je le dirais. C'est d'une manière assez simple que les assignations de sexe dans la société suivent une certaine idée naturalisante qui est liée à l'idéologie de la différence sexuelle, c'est-à-dire que dès très jeune, dès la naissance et même éventuellement avant, on assigne un sexe à l'enfant avec tout ce que ça implique dedans, c'est-à-dire de petite fille, on devient adolescente, on devient femme, ou petit garçon, on devient garçon et puis homme. Et que ça c'est vraiment perçu comme des processus linéaires d'une part et naturels d'autre part. Ça correspond aussi à des catégories normatives qui sont extrêmement strictes. Hein. Les catégories de sexe sont des catégories très strictes en termes de stéréotypes, hein, de stéréotypes de genre, en termes de rôle de genre, qui, parce qu'elles sont très strictes, génèrent nécessairement leurs propres exceptions, qui peuvent être l'homosexualité. Puisque ça peut être l'homosexualité dans le sens où, effectivement, être femme, c'est associé à aimer les hommes, et être homme, associé à aimer les femmes, ou en tout cas avoir un certain rapport aux femmes, parce que je ne suis pas sûr que les hommes aiment vraiment les femmes. Pardon, l'instant lesbienne. de même, ça peut être en termes d'intersexuation, c'est-à-dire que, puisqu'il y a cette naturalisation des catégories, il y a aussi une naturalisation, une normalisation du corps qui va se traduire forcément, malheureusement, par une tentative de normaliser ce corps-là lorsqu'il sort des normes hormonales, des normes anatomiques qui sont attendues des êtres humains. Et puis, pour en venir à la transsexualité, il y a des personnes aussi qui vont, au lieu de passer de petit garçon à homme, de garçon à homme, vont peut-être passer de garçon à femme ou de homme à femme à un moment dans leur vie, et réciproquement. Et donc forcément, ces processus, contrairement à l'existence des personnes cissexuelles, le fait d'avoir ces trajectoires de vie-là dans le système, dans une société patriarcale, la société patriarcale en tout cas dans laquelle nous vivons, elle va à l'encontre de cette idéologie de la différence sexuelle. Et donc il y a des sanctions qui vont être la transphobie, et qui découle en fait, oui, du cissexisme, c'est-à-dire qu'il y a une norme cissexuelle de ce parcours linéaire dont je parlais à l'instant, à laquelle, si on déroge, on sera considéré comme anormal, et effectivement, on fera l'objet de sanctions, de tentatives de redresser le parcours, comme tu disais, de réassignation au sexe d'origine. On peut souvent entendre, comme pour l'homosexualité d'ailleurs, que les personnes trans existent dans toutes les sociétés. Et je pense que ça me paraît assez important de dire toutes les sociétés humaines que l'on connaît effectivement ont des systèmes de genre, sont des sociétés patriarcales qui vont avoir une distinction entre hommes, femmes ou d'autres catégories, et qui vont associer à ces catégories évidemment un rôle particulier, une place particulière dans la société, et le pouvoir ou l'oppression qui va avec. Mais je pense qu'il est inexact de dire qu'en fait on est trans de la même manière dans des sociétés radicalement différentes. C'est-à-dire que si on parle de la transsexualité en France, par exemple, en fait, c'est une expérience qui est relative à cette société particulière, et notamment aux techniques médicales dont parlait Pauline à l'instant, les techniques médicales, sociales, administratives, juridiques, légales, qui permettent ou ne permettent pas de passer d'un sexe à l'autre. Et donc ça correspond à des travaux de mon amie Pauline Clochec. Donc t'es sans doute plus apte que moi à en parler, mais je pense que c'est assez important aussi de contextualiser cela, c'est-à-dire qu'on parle d'une expérience particulière dans une société particulière, et donc d'éviter une naturalisation de cette expérience minoritaire, c'est-à-dire que puisqu'on a une naturalisation du système sexe-genre, on va aussi chercher à naturaliser ces expériences minoritaires. Et par exemple dire, pour l'homosexualité, il y a un gène de l'homosexualité qui fait que c'est quelque chose qui est inévitable, qui arrive naturellement, voilà. Et c'est des choses qu'on peut aussi trouver comme tentative de, d'explication de, ce que, de l'existence des personnes trans.
Simplement pour revenir sur le, ce que vous disiez, en fait, toutes les deux, tout l'appareillage juridique, biologique, enfin, par la médecine, la politique sociale, etc., pour réassigner les personnes trans à leur sexe d'origine, cet appareillage montre l'existence finalement d'un cissexisme, d'un système social et pas simplement de comportement individuel. Je me disais que c'était peut-être important de revenir sur la différence peut-être entre cissexisme et transphobie, dont des termes que vous avez employés toutes les deux, pour justement montrer que c'est pas simplement des exceptions individuelles de personnes trans qui auraient subi les foudres d'un méchant médecin ou, je sais pas, d'un méchant... d'un mauvais officier d'état civil lors de son changement d'état civil, mais de montrer que ces comportements individuels, tout comme les films dont tu parlais tout à l'heure, Pauline, prennent place dans ce système cissexiste qui finalement régule, enfin tente en tout cas de réguler et de réassigner l'ensemble des personnes trans à leur sexe d'origine.
Et si je peux ajouter, ce qui est intéressant dans le concept de cissexisme aussi, c'est l'idée ça rattache ça bien au patriarcat avec le rattachement au sexisme et le fait que le cissexisme est un système qui presque un sous-système du patriarcat dans le sens où il va opprimer les personnes qui transgressent la base de l'idéologie patriarcale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la biologie est un destin, alors que l'idée précisément du féminisme, de la contestation du sexisme, c'est l'idée que la biologie n'est pas un destin, et bon, c'était déjà la base du féminisme de Simone de Beauvoir, mais c'est aussi la base du transféminisme dont on va parler plus tard.
Alors je suis effectivement tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut distinguer entre les termes cissexisme et transphobie, et bon, là-dessus, bon, c'est quelque chose, une distinction et une préférence lexicale qui est présente chez pas mal de gens, chez Emmanuel Bobatti, donc qui parle ou qui va parler aussi dans votre émission, mais aussi chez Sam Bourcier, hein, pour le coup, je suis d'accord avec lui là-dessus, qui est que quand on parle de transphobie, à travers ce terme de phobie, qui serait une peur irrationnel d'individus un peu arriérés, un peu obscurantistes, on parle d'un phénomène psychologique et individuel. Alors que quand on parle de cissexisme, on parle d'un système social. Un système social au sens où c'est dans l'ensemble des domaines de la société que les individus trans, du moins dans la mesure ou dans les moments où elles sont perçues comme trans, vont faire face à de l'oppression et des discriminations. C'est dans le monde de l'entreprise, avec des discriminations à l'embauche, du harcèlement au travail. C'est dans le monde du logement, discrimination à l'emploi, je peux vous dire, discrimination à trouver un logement. Je peux vous dire que c'est extrêmement dur de trouver un logement quand vous avez des papiers qui ne correspondent pas à votre apparence physique. C'est dans la famille, beaucoup de jeunes trans qui se font virer en fait de chez leurs parents. C'est dans le monde médical, etc. Donc il y a vraiment systématiquement un cissexisme, une discrimination à l'endroit des personnes trans dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et par conséquent, ce serait faux de dire que l'hostilité envers les personnes trans, ce serait de la transphobie au sens où on pourrait répondre « Oh mais quand même, on est en 2020 aujourd'hui, les gens qui sont sexistes, qui sont transphobes, ils sont un peu arriérés. » Non, non, dans une société patriarcale, dans une société hétérosexiste, c'est parfaitement rationnel et pertinent en fait d'être cissexiste. De fait, la transsexualité, au sens où je parlais tout à l'heure de classe de sexe, hein, pas forcément transsexualité, au sens du programme médical des années 70. Hein.
Au sens où on change de... au sens anatomique.
Aussi au sens anatomique, c'est-à-dire que la transsexualité peut inclure des éléments anatomiques et médicaux. On pourra revenir là-dessus par la suite. Mais la transsexualité, le changement de classe de sexe, vient mettre à mal certains aspects de l'idéologie, mais aussi du système social genré dans lequel nous vivons. C'est pour ça que je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi du cissexisme. Pourquoi, finalement, cette hostilité systématique dans toutes les parties de la société ? Tout simplement parce que l'existence de la transitude, l'existence même de la possibilité de passer d'un sexe à l'autre, y compris biologiquement, ça vient saper, ça vient miner quelque chose de très puissant culturellement, idéologiquement, qui est la justification naturaliste, la justification pseudo-biologique du genre, c'est-à-dire la justification pseudo-biologique de la division et de la hiérarchisation genrée. De dire c'est normal qu'il y ait les hommes et les femmes et que les hommes dominent, parce que la nature l'a voulu comme ça, les hommes sont plus forts, les hommes doivent travailler. Et bien en fait, ce que prouve le changement de sexe, c'est que socialement, on peut passer de l'un à l'autre, et que biologiquement, il n'y a pas les hommes forts d'un côté et les femmes faibles de l'autre, mais qu'on a un continuum biologique, un continuum hormonal, anatomique, qui permet de passer de l'un à l'autre. Par conséquent, l'existence des trans, elle doit rester la plus discrète possible. Le but des médecins, c'est de faire, ok, à la limite, on accepte que vous changiez de sexe, mais restez discret. Surtout, ne faites pas trop de vagues. Le cissexisme, l'invisibilisation, les oppressions envers les personnes trans, il me semble que c'est une fonction à l'intérieur de ce qui est plus large, à savoir du sexisme. Le sexisme se justifie par une pseudo-biologie qui met les hommes au-dessus, et par conséquent, il vaut mieux pas qu'on parle trop des trans et que les trans soient trop mis en avant, vu qu'ils nient cette pseudo-biologie de la supériorité masculine et de la complémentarité des sexes.
Donc toi, tu parles de cissexisme principalement du point de vue de l'idéologie de la différence des sexes, donc d'un point de vue très très large, mais du point de vue individuel, ça va aussi s'exprimer sous la forme d'une délégitimisation et d'une minorisation de l'expérience, des expériences des personnes trans, et aussi de leurs paroles, c'est-à-dire que la manière dont elles décriront, rapporteront cette expérience, sera aussi jugée, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans cette idéologie de la différence des sexes, elle sera jugée comme peu digne de confiance, fausse par principe, voire folle. Et donc, à partir de là, on empêche aussi les personnes trans de penser et de politiser leurs propres expériences en leur disant, en les empêchant de parler, hein, tout simplement. On n'a pas forcément envie d'entendre des personnes trans réfléchir à leurs propres conditions parce que qu'est-ce qu'elles pourraient bien avoir à dire que ne pourraient pas déjà dire des experts cissexuels de la transsexualité.
Finalement, j'ai l'impression que ces experts-là, qui vont avoir la légitimité de parler sur le vécu trans, ces experts cis, bien entendu, ça va être souvent des experts du monde médical qui vont penser la transsexualité comme un phénomène psychiatrique, enfin comme une maladie psychiatrique. Et du coup, tu disais, Pauline, que ces experts-là veulent cacher les trans, enfin les acceptent quand ils peuvent cacher finalement. Enfin, en tout cas, les laisser dans une partie reculée de la société. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une ambivalence, parce que tu disais dans l'un de tes articles que les médecins, les psychiatres, demandaient souvent aux personnes trans, dans le cadre de leurs demandes, par exemple, d'obtention d'hormones, de finalement vivre un mois, deux mois, six mois avec des vêtements de femmes, s'il s'agit de femmes trans, ou d'hommes, s'il s'agit d'hommes trans, avant même leur transition, ce qui aboutit à une situation où, si j'ai bien compris, finalement, les femmes trans ou les hommes trans vont être complètement outés très vite aux gens. Et du coup, il y a à la fois, j'ai l'impression, le contrôle des corps trans qui doit être à la fois caché, mais en même temps révélé. J'ai l'impression que, du coup, le médecin souhaite avoir un pouvoir tout puissant sur le destin des personnes trans. Est-ce que tu veux commencer ?
Répondre toutes les deux. Mais est-ce que tu veux...
Vas-y. Je vais enchaîner ensuite sur le féminisme et le cissexisme dans le féminisme.
Alors, effectivement, il y a de la part du monde médical qui s'occupe des personnes trans et qui en France est en grande partie organisée sous la forme d'une association d'intérêt public qui s'appelait la SOFECT, Société d'études et de prise en charge de la transidentité, qui est en train de changer de nom pour s'appeler FPAT, c'est-à-dire French Psychiatry Association for Transgender, je sais plus quelle est vache, bon, qu'importe, mais bon, c'est toujours la même organisation.
Transgender.
Qui est une organisation qui évolue, hein, qui n'est peut-être pas aussi pire qu'elle l'était dans le temps, mais qui en tout cas se fonde toujours sur la mise sous tutelle des transitions des personnes trans sous l'autorité médicale et notamment psychiatrique. Eh bien, ces institutions sont dans la pratique d'injonctions contradictoires à l'égard des personnes trans. Injonctions contradictoires, effectivement, il faudra que vous fassiez oublier socialement. Ça, c'est Colette Chilan, qui était la présidente d'honneur de la SOFECT, qui disait, oui, autrefois, les trans, c'est des gens qui cherchaient à se faire oublier, à vivre leur petite vie souffreteuse dans un coin de la société, c'était très bien. Et maintenant, ils parlent au effort, c'est vraiment des nazis. Enfin, elle dit vraiment que c'est des nazis. Hein. Ça, c'est... Et d'un autre côté, effectivement, il y a ce fameux test de vie réel, le Real Life Test, on dit souvent parce que ça vient d'un protocole américain à la base, qui a en fait une fonction très claire qui est liée à la première. C'est-à-dire que la première fonction, c'est aussi qu'il y ait le moins de trans possible. Alors le Real Life Test, ça a pour fonction de décourager le plus possible les gens de transitionner. C'est, on va vous donner un accès à des hormones, seulement si, pendant un laps de temps, qui heureusement tend de plus en plus à décroître, et voire dans certaines villes de la SOFECT, il commence à le faire sauter, comme à Lyon, ce test de vie réelle. Mais tant que vous n'aurez pas vécu, sans prendre d'hormones, dans les vêtements et avec le prénom de votre sexe d'arrivée, on ne vous donnera pas l'accès aux hormones. Donc, or, le problème, c'est que les gens qui ont la chance de pouvoir être physiquement crédibles dans leur sexe d'arrivée, sans prendre d'hormones, sans faire de modifications hormonales, c'est une petite minorité. Par conséquent, les gens qui vont faire leur life test auront juste l'air d'hommes qui mettent des jupes et du maquillage, ou de femmes qui s'habillent de manière masculine, et de ce fait seront extrêmement vulnérables, non seulement aux agressions quotidiennes dans l'espace public, mais surtout à se faire virer par leurs parents ou à se faire virer par leur emploi. Et ça a pour fonction de décourager le plus de gens possible à travers cette idée que il faut être absolument sûr de soi pour commencer les hormones. C'est un choix grave. Bon, il y a des gens qui prennent les hormones, qui arrêtent d'en prendre, qui parfois en reprennent. Bon, c'est un choix grave. C'est un choix qui implique toute une vie. Il faut être à 100% sûr. Et c'est seulement cette toute petite fraction de gens qui auront survécu à toutes ces injonctions contradictoires, aux tests de vie réels, à toutes ces expositions à la violence, qui auront le droit d'avoir des hormones. Alors que bon, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand les gens ont accès aux hormones assez simplement, et ben les gens essayent les hormones quelques semaines, quelques mois, voient si ça leur plaît, et parfois ça leur plaît, et continuent leur transition à vie, parfois ça leur plaît pas, arrêtent, trouvent d'autres manières de se sentir mieux. C'est pas quelque chose d'aussi dramatique que la manière dont le monde médical et psychiatrique tend encore beaucoup à le présenter.
Oui, donc effectivement, tu as ce sexisme qui est médical, mais aussi dans les représentations sociales qu'on en a, puisque ce que tu dis, la transition comme quelque chose de très dramatique, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver énormément dans les représentations médiatiques, populaires des personnes trans. des personnes qui feraient ça parce que elles n'auraient pas d'autre choix, parce qu'elles seraient arrivées dans une impasse en quelque sorte.
Ce qui peut être le cas aussi.
Ce qui peut être le cas également, mais je pense que c'est important aussi de mettre en avant qu'il y a une diversité de parcours, d'expériences.
D'ailleurs, sur ce point, l'émission avec Emmanuel Bobassi développe justement la diversité des parcours trans en fonction aussi du fait s'il s'agit simplement de femmes trans et d'hommes trans.
En fonction effectivement du sexe, mais en fonction de la classe sociale, en fonction de la racialisation. Lorsque tu dois décrire ton expérience trans et la politiser, inévitablement, en fait, t'en arrives à une analyse féministe. C'est obligatoire, en fait. On ne peut pas penser les expériences trans sans les penser vis-à-vis des questions féministes, des mouvements féministes aussi, hein, directement pour l'autonomie, pour la libre disposition de son corps, etc. Et donc, à partir de là, les personnes trans qui sont amenées à expliquer, théoriser, mettre en commun leur vécu et agir ensemble, éventuellement, sont confrontées aussi à une autre forme de cissexisme qui va être aussi dans les milieux féministes, qui est en fait dans tous les milieux de lutte politique, hein, qui est la difficulté, effectivement, à faire entendre la légitimité de son expérience, mais aussi le fait de pouvoir centrer son expérience dans sa propre explication du monde, là où, du point de vue cissexiste, en fait, cette expérience, parce qu'elle est minoritaire, elle doit être, en quelque sorte, une note de bas de page. Et donc, de là, forcément, naît la nécessité de développer une pensée qui serait autonome, et qui centrerait ses expériences, ses réflexions politiques autour de la transsexualité, parce que il n'y a pas forcément la possibilité de la penser en dehors. Donc de là naît ce qu'on appelle communément le féminisme trans ou transféminisme.
Oui, et c'est ce qu'on voit. Tu parlais du fait que c'était né lié à des expériences historiques, puisque dans les années 70, il y a eu des femmes trans qui se sont fait exclure du mouvement féministe. Et de là, effectivement, le fait que les femmes trans ont pu, pendant un certain nombre d'années, se rattacher plutôt au courant LGBT, même si, bon, en réalité, c'est vu comme quelque chose de très uni, alors qu'en réalité, il y a énormément de divergence et de rapport de force à l'intérieur de ce courant. Et l'idée du transféminisme, c'est de dire que les femmes trans, en tant qu'elles sont des femmes à part entière, aussi à un niveau social, donc au niveau matérialiste, puisque c'est l'objet de cette émission, en tant qu'elles sont perçues socialement comme des femmes et donc vivent les oppressions et l'exploitation sexiste théorisées par le féminisme matérialiste, ont pleinement leur place, pas seulement dans un mouvement entre guillemets séparé LGBT, mais aussi dans le mouvement féministe.
Je pense que le risque là-dedans, c'est aussi de considérer ça du point de vue d'une lutte de légitimité, en fait. C'est-à-dire, il y a aussi des faits qui sont que les personnes trans, pas que les femmes d'ailleurs, puisqu'on trouve aujourd'hui et probablement depuis assez longtemps des hommes trans, des personnes non binaires dans les mouvements féministes, les personnes trans sont impliquées dans les mouvements féministes et on en a des traces qui datent probablement on a dès les années 60, hein, peut-être même avant. On a des femmes trans qui s'impliquaient dans des associations féministes sans forcément que ça fasse débat, en fait. Là où on en a des traces, c'est souvent parce que justement il y a eu des conflits. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est relativement invisible parce que les femmes trans ne sont pas nécessairement visibles comme trans, parce qu'elles n'ont pas forcément non plus envie de visibiliser cela dans les luttes féministes. On se rend compte qu'elles apparaissent surtout lorsqu'elles y sont contraintes parce que il y a une remise en question de leur légitimité à parler au travers de ces luttes, à s'impliquer dans ces luttes, et aussi leur tout simplement leur légitimité à utiliser les outils du féminisme pour décrire leurs expériences et former une pensée, une action politique.
Oui, c'est important ce que tu as dit, effectivement, parce que, comme l'une d'entre vous l'écrivait dans un de ses articles, le transféminisme n'appelle pas à un féminisme plus inclusif vis-à-vis des femmes trans, mais plutôt, et d'une manière parallèle au féminisme décolonial ou au féminisme marxiste, plutôt est dans une critique de l'appropriation de la parole féministe légitime par les féministes cis, blanches et bourgeoises.
Tout à fait, ça c'est un point qui a été souligné avec beaucoup de force par Noémie Gonenwald, qui est que généralement ce qu'on appelle inclusion, c'est juste un aménagement de l'exclusion par les majoritaires pour se donner bonne conscience. À dire, ouais, on a un espace inclusif, on inclut les femmes trans, mais du coup on les inclut comme le petit quelque chose en plus, comme il y a des gens qui sont les propriétaires du mouvement légitime du mouvement féministe, ce sont les femmes cis, et elles feraient la fleur aux trans, notamment aux femmes trans, de les inclure dans la discussion du moment qu'elles parlent pas trop fort. Et en réalité, quand ça marche d'un point de vue militant, dans les associations, Noémie Gonenwald prend notamment pour objet les collectifs d'autodéfense féministe, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'inclusion de « il y a les femmes cis » et ensuite les femmes avec un petit quelque chose en plus, donc les femmes trans, les femmes racisées, on est gentil, on les inclut.
Les notes de bas de page.
Il y a les notes de bas de page, exactement, les détails qu'on inclut pour se donner bonne conscience. Il y a des femmes parmi les femmes, parmi toutes les femmes qui... Il n'y a pas la femme au singulier, il y a plein de femmes parmi les femmes. Il y a les femmes blanches, il y a les femmes trans, il y a les femmes cis, il y a les femmes racisées. C'est pas une histoire d'inclure gentiment quelques catégories, du moins qu'elles ne parlent pas trop fort. Là-dessus, sur cette question de l'inclusion et du transféminisme, je pense qu'il faut faire bien attention à ce qu'on appelle transféminisme, parce que ça peut être des choses tout de même assez différentes. Je pense qu'on peut, on peut donner deux sens à ce terme de transféminisme. Et le premier sens, c'est tout simplement un constat. Un constat que les femmes trans, en devenant effectivement des femmes, vivent une condition de femme, partage certaines expériences communes avec des femmes, avec d'autres. Enfin, c'est toujours, c'est jamais un monolithe, la femme. C'est plein d'expériences partagées qui peuvent varier avec tel ou tel groupe parmi les femmes. Et en ce sens, elles font face au patriarcat, elles font face à l'hétérosexualité obligatoire, aux agressions, aux viols, aux plus grandes difficultés à faire carrière, aux salaires qui sont moindres. Elles font face tout simplement à ce contre quoi lutte le féminisme, et donc les femmes trans, comme toutes les autres femmes, ont leur place dans les mouvements féministes. C'est juste un constat, ça. Ça, c'est le premier sens de transféminisme. Le deuxième sens de transféministe, un sens un peu plus maximal, ça consiste à dire que l'existence des personnes trans et l'émergence de doctrine transféministe, principalement à partir des années 90, cela révolutionne complètement la pensée féministe. Finalement, que le transféminisme révolutionnerait autant les mouvements féministes, dans leur théorie notamment, que l'a fait l'afroféminisme. Là, je trouve ça plus contestable de tresser un tel parallèle avec l'afroféminisme. Pourquoi ? Parce que ce qui est certain, c'est que l'existence des personnes trans, à la limite, a un apport à la théorie féministe. Un apport qui est le fait de pousser plus loin, par la simple réalité sociale et biologique du changement de sexe, de pousser plus loin la réfutation, la déconstruction, comme on dit aujourd'hui, du naturalisme, de la pseudo-justification biologique du patriarcat. C'est ce qui fait que, par exemple, une féministe radicale des années 70-80 aux États-Unis, Andrea Dworkin, disait « Mais en fait, c'est en bossant avec des femmes transsexuelles que moi, qui partais des représentations communes dans la biologie, en mode il y a deux sexes séparés, les hommes et les femmes, qui sont opposés et complémentaires », c'est en bossant avec des transsexuels que je me suis rendu compte que non, en fait, il y a un continuum sexuel entre les deux. Donc là, il y a bien un apport, effectivement, de l'existence des personnes trans et de la participation des femmes trans au mouvement féministe. Mais apport ne veut pas dire révolution. Pourquoi ? Parce que cette déconstruction de la différence sexuelle, cette déconstruction non seulement de la naturalité des rôles de sexe. La femme doit cuisiner, l'homme doit ramener le salaire, etc. Mais, plus fondamentalement, la déconstruction des sexes même, la déconstruction de l'idée qu'il y aurait deux sexes biologiques absolument distincts, opposés, complémentaires, et dont l'un est au-dessus par rapport à l'autre, eh bien, c'est une entreprise qui est antérieure à l'émergence du transféminisme dans les années 90. Cette critique des rôles de sexe, cette critique du naturalisme de la différence sexuelle, on trouve ça au moins dès les débuts de la seconde vague, chez Beauvoir, On n'est pas femme, on le devient. On trouve ça chez Monique Wittig, dans La pensée straight, dans La catégorie de sexe. Bien plus tôt, les participations des femmes trans au féminisme, les pensées trans, la manière de théoriser leurs expériences par les trans, sont venues conforter, enrichir, apporter quelque chose à une entreprise de dénaturalisation de la différence sexuelle qui était plus ancienne dans les mouvements féministes. C'est pour ça que je pense que il ne s'agit pas de dire que le transféminisme, c'est une quatrième vague, ou une cinquième vague, ou une neuvième vague, que c'est quelque chose qui révolutionne le féminisme autant que l'a fait l'afroféminisme. Ça apporte quelque chose, mais je ne crois pas que ce soit non plus une révolution complète.
Là où peut-être ça réinterroge certaines choses de la deuxième vague, c'est le fait que, donc si on reprend un peu l'histoire des concepts, d'abord on a distingué sexe biologique, sexe social, pour dire qu'il y avait effectivement une dimension socialement construite des identités de femmes et d'hommes. Après on est passé au concept de genre qui, justement, tente de dénaturaliser complètement la catégorie homme et la catégorie femme, mais qui peut avoir l'impression, mais où qu'il y avait cette limite que finalement c'était aussi on mettait le sexe de côté et du coup d'une certaine manière ça pouvait laisser encore entendre que même si on la mettait de côté, finalement il y aurait quand même une réalité biologique, même si on veut pas en parler puisqu'on parle uniquement de genre. Alors qu'effectivement, peut-être qu'avec le transféminisme, une idée que j'ai l'impression que tu défendais, c'était l'idée, et c'est pour ça que d'ailleurs dans cette émission, on a très peu utilisé le concept de genre, c'était l'idée que finalement, le transféminisme, alors peut-être simplement en poussant au plus loin, finalement, le programme du féminisme matérialiste, mais dénaturalise aussi la catégorie de sexe.
Effectivement, on peut entendre le rapport genre sexe de plusieurs manières. Il y aurait la manière effectivement naïve qui consiste à dire il y a le sexe biologique et le genre c'est culturel. Et du coup le sexe ça change pas et le transféminisme aurait changé ça. Mais en réalité, on n'a pas attendu le transféminisme pour mettre ça en cause. C'est-à-dire que l'idée que le genre précède le sexe, c'est-à-dire que la division sociale est ce qui fait exister, ce qui nous fait même percevoir des hommes et des femmes, ça a été quelque chose défendu par les féministes matérialistes sans qu'elles aient forcément à penser à la transsexualité. L'un des exemples les plus classiques, c'est Christine Delphi. Christine Delphi, c'est une penseuse qui défend qu'il n'y a aucune justification biologique a divisé l'humanité en deux groupes, que sont les hommes et les femmes, et que tout ça vient d'un système socio-culturel de domination qu'elle appelle le genre et le patriarcat. Et elle a pensé ça sans référence à la transsexualité, d'autant plus qu'on ne peut pas tout à fait la suspecter de sympathie envers les personnes trans.
Le genre précède le sexe, comme tu dis, c'est une expression de Christine Delphi, donc qui en fait a pas mal poussé cette dénaturalisation des catégories de sexe. Et comme tu dis, elle n'a pas du tout eu besoin pour penser cette dénaturalisation de s'appuyer sur les exemples de la transsexualité. Elle ne les mentionne pas dans sa production intellectuelle. Et plus récemment, elle est devenue même relativement, très hostile aux personnes trans et à leur lutte. Et en particulier lorsqu'elles s'inscrivent dans les luttes féministes. Mais... Et ça ne nous empêche pas pour autant d'apprécier sa contribution, en fait, à la dénaturalisation des catégories de sexe. En particulier parce qu'on peut y trouver des applications directement qui touchent énormément les personnes trans, et en particulier les femmes trans. Et donc, nous, par exemple, on a quand même... pour nous, Christine Delphi, c'est une théoricienne qui nous a pas mal influencés, individuellement et aussi collectivement.
Du coup, moi, j'aime pas trop parler de transféminisme, je préfère parler de féminisme, tout simplement. C'est pour ça que je me dis militante féministe, parce que pour moi, c'est le féminisme doit lutter pour toutes les femmes, et parmi toutes les femmes, il y a aussi les femmes trans, tout simplement. Mais je pense qu'il y a quand même un apport du fait que les femmes trans et les hommes trans d'ailleurs aussi aient commencé à théoriser leurs expériences, ce qu'elles vivaient, pas que théoriser leur expérience, théoriser à partir de là qu'est-ce que c'est que le genre, qu'est-ce que c'est que le patriarcat, qu'est-ce que c'est que l'hétérosexualité, c'est que ça encore une fois sapait encore plus efficacement les justifications biologiques du patriarcat.
Après, le risque, effectivement, c'est de, lorsqu'on n'a pas conscience en fait de toute cette histoire de la dénaturalisation des catégories de sexe opérée par le féminisme au cours des dernières décennies, on peut trop vite penser que cette dénaturalisation ne peut être pensée sans les personnes trans, et même à penser que les personnes trans sont importantes. En tant que dans leur existence, elles montreraient cette absence de naturalisation. Et il y a aussi un risque à partir de là de fétichisation, en fait, où on va parler des personnes trans en ce qu'elles contribuent à la dénaturalisation des expériences vécues par les personnes cis. Et donc, finalement, à faire passer par là, faire passer les expériences des personnes cis comme des expériences de référence à laquelle on aurait une petite contribution d'explication complémentaire apportée par les expériences trans.
Donc voilà, dans une première partie, on a, je pense, expliqué un petit peu les bases un petit peu de ce que c'est que le transféminisme, même si effectivement comme tu le dis, Pauline, on peut dire que finalement le transféminisme c'est juste un féminisme matérialiste conséquent qui ne trouve pas des justifications pseudo-biologiques à exclure les femmes trans du mouvement féministe, alors même que la base du féminisme matérialiste était précisément de dénaturaliser complètement les catégories de femmes et d'hommes. On peut dire que d'ailleurs le féminisme matérialiste de Christine Delphi est une forme de contradiction, que ses positions transphobes et cissexistes sont en contradiction même avec ses écrits théoriques, d'où le fait d'ailleurs qu'on peut s'approprier ses écrits théoriques. Et donc, dans la deuxième partie, on va s'attacher à approfondir un petit peu ce que ce serait qu'un féminisme ou un transféminisme matérialiste, notamment en opposition au féminisme anti-trans et aussi dans en quoi il diverge du féminisme ou du transféminisme queer.
Tu as dit seulement un petit truc inexact, c'est, si je ne me trompe pas, c'est que tu as dit que le transféminisme était une conséquence logique du féminisme matérialiste, mais en fait le transféminisme est une conséquence logique de, du fait que l'existence des personnes trans est difficile à... les personnes trans ont besoin du féminisme pour s'expliquer et s'organiser et résister face au patriarcat. Mais à partir de là, si certaines choisissent effectivement une voie plutôt matérialiste, enfin plutôt liée au féminisme matérialiste, d'autres vont effectivement chercher du côté du féminisme queer. Et là, en fait, on trouve au sein des mouvements transféministes aussi des accords qui peuvent être assez, assez importants et qui s'expriment régulièrement en fait, dans les activités intellectuelles et militantes.
Et on va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie.
Je prends pas de pincette quand je te parle. Fonceuse professionnelle, faut que ça parte. Foncez désormais, on n'hésite pas. La tête bien au-dessus qu'on vienne pas. Me dire de me calmer encore une fois. Je fais plus semblant quand je vois. Trop d'égo sur les autres, t'inquiète pas. Quand ils se vendent, je tape dans leur casque. Ils sortent un peu la tête de la chasse. Je gribouille pour eux, ça paraît rien. Pourtant je change à nuit en matin. J'ai jamais été faite pour ce monde. C'est parce que ma foi, je suis née pour ça. Détruire tout toute seule avec. Depuis le toit, il est déjà tard le soir. On voit la foire en bas, tes cheveux dans mes doigts. Il faut peu pour mes mots.